Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, il n'y a pas une famille ouvrière qui n'aborde cette rentrée sans appréhension. Le sort des travailleurs n'a jamais été enviable, mais depuis l'éclatement de la crise il y a 3 ans, le recul des conditions de vie s'accélère. Les commentateurs viennent de découvrir que la pauvreté en 2009 a augmenté et qu'il y a 8 200 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 954 euros par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement? Avec les dizaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de magasiniers, de chauffeurs routiers, d'intérimaires qui ont été licenciés et qui ont perdu le salaire qui les faisait vivre. Et combien parmi eux ont épuisé leur droit au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre. Même pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile. Parce que tout augmente. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, le carburant, tout augmente. De 3, 5, 10, 20% pour le gaz cette année. Mais qui, parmi nous, a vu son salaire, ses allocations ou sa pension de retraite augmenter à ce rythme? Personne. Les salaires ne suivent même plus l'augmentation des produits alimentaires. Alors quoi d'étonnant à ce que le Secours populaire ou les Restaurants du cœur se remplissent, y compris de travailleurs? Le chômage mine la classe ouvrière, matériellement comme moralement. Pour les jeunes qui commençaient la vie active, ces 3 années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris diplômés, qui se sont entendus dire que ça n'embauche pas. Et pourtant, combien de CV ont-ils envoyé? Combien de stages ont-ils accepté? Combien d'attentes ont-elles été déçues? Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse ouvrière est ballottée de stage en stage, de petit boulot en petit boulot, et le tout entrecoupé de périodes de chômage. La plupart des jeunes sont obligés de galérer, parfois pendant des années, avant de trouver un vrai emploi. À travers l'explosion du chômage et la dégringolade du pouvoir d'achat, c'est la classe ouvrière, dans son ensemble, qui paye la crise depuis 3 ans. Et le gouvernement veut en plus lui faire payer la dette de l'État. Dès cette rentrée, le gouvernement Sarkozy-Fillon a annoncé un nouveau plan de rigueur. Histoire de prétendre que les sacrifices sont équitablement répartis, Fillon a décidé une taxe de 3% sur les très hauts revenus. Oh, une taxe exceptionnelle, quand même, a-t-il précisé. Ce n'est en fait rien de plus qu'une collecte exceptionnelle de quelques pièces jaunes auprès des plus riches. Rien que les taxes. Oui, parce que rien que les taxes supplémentaires sur les sodas, sur les alcools et sur le tabac rapporteront 6 fois plus que cette contribution des plus riches. Et puis, buveurs de Fanta et autres Orangina, et bien que vous soyez smicard ou chômeur, et bien vous aurez l'honneur d'apporter à vous seul 1/5 de ce que les riches apporteront aux recettes de l'État. Alors vous voyez, quel que soit l'enrobage, quand les dirigeants politiques parlent de rigueur, et bien ce sont toujours les classes populaires qui finissent par payer. Et que les candidats socialistes à la primaire cherchent tous à concurrencer Sarkozy justement sur ce terrain de l'austérité et de la rigueur, eh bien cela montre que s'ils reviennent au pouvoir, eh bien il y a une seule chose qui changera, c'est que les coups, au lieu de venir de la droite, eh bien ils viendront de la gauche. Le gouvernement a annoncé aussi qu'il allait continuer à supprimer 1 fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. C'est-à-dire qu'il allait continuer à démolir les services publics. Mais des milliers de postes de personnel hospitalier ont déjà été supprimés, avec pour conséquence des milliers de lits d'hôpitaux en moins, des services fermés et même des maternités fermées. Et puis, se soigner coûte de plus en plus cher, entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires. Combien d'entre nous hésitent pour aller chez le dentiste ou pour changer de lunettes? Combien d'entre nous renoncent à acheter ce qu'on appelle maintenant Vous savez, les médicaments de confort. Alors, pour les maladies graves, on arrive encore à se faire soigner. Mais pour tout un tas de problèmes de santé moins graves, eh bien, on se soigne de moins en moins. Dans l'éducation, le gouvernement a supprimé 66 000 emplois d'enseignants en 4 ans. Oh, le manque de professeurs ne se voit pas beaucoup dans les quartiers populaires. Non, pardon, dans les beaux quartiers, justement. Parce que là, les remplacements, eh bien, ils sont assurés. Et puis, on peut travailler avec 3 ou 4 élèves en plus dans une classe. Ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais dans les communes populaires, des classes ont manqué d'enseignants pendant 1, 2, 3 semaines parce qu'il n'y a plus assez de remplaçants. Des élèves en difficulté s'installent dans l'échec scolaire et dans le rejet de l'école sans que les enseignants ne puissent rien faire parce qu'ils ne peuvent plus travailler en petits groupes. En cette rentrée, Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale, veut faire croire que tout se passe bien et que ces milliers de suppressions de postes ne posent pas de problème. Dans les entreprises, on parlerait de gains de productivité. Mais là, on parle d'élèves, on parle d'enfants, de jeunes, qu'il est de plus en plus difficile de suivre, d'encadrer, d'entraîner. Oui, l'éducation des enfants qui en auraient le plus besoin est sacrifiée. Et ce ne sont pas des gains, mais ce sont des pertes sèches pour toute la société. Vous savez comme moi ce qu'il en est. Non seulement le gouvernement a reporté de 60 à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite, mais depuis, il a aussi augmenté la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein à 41 annuités et demie. Les retraités des classes populaires vivent de plus en plus mal, avec des pensions qui se réduisent comme peau de chagrin, et puis surtout, les plus anciens, s'ils ne sont pas mis à la porte, eh bien, ils devront s'épuiser, se tuer au travail 2 années de plus, alors que tant de jeunes sont au chômage. Plus de chômage, plus de misère et de moins en moins de droits, eh bien, tout cela s'ajoute et rend la vie de la classe ouvrière de plus en plus dure. Et après ça, le gouvernement ose parler de sacrifices partagés et de solidarité nationale entre les riches et les pauvres. Eh bien, je vous le garantis, plus que tous nos discours, c'est le gouvernement. C'est la bourgeoisie, ce sont les capitalistes qui finiront par faire exploser la colère des travailleurs. Avec leur cynisme, leur cupidité et leurs ignominies, eh bien ce sont eux qui mettront le feu aux poudres. Le gouvernement Sarkozy-Fillon fait un chantage quasi permanent, en invoquant le montant de la dette de l'État et en prétendant qu'il est du devoir de chacun des citoyens de contribuer au remboursement de cette dette. Eh bien, c'est un chantage grossier. Pendant ces 3 années de crise, le gouvernement a contracté 420 milliards de dettes supplémentaires. Mais où est passé cet argent? Ces 420 milliards, ils ont bien atterri quelque part. Ils ont bien servi à quelque chose. Qui est-ce qui en a profité? C'est vous? C'est moi? Mais aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Ceux qui en ont profité, ce sont d'abord les banquiers. Je vous rappelle que pour les banquiers, tous les États qui ont du mal aujourd'hui à trouver quelques millions pour sauver de la famine 12 millions de personnes en Afrique, eh bien ils ont débloqué, du jour au lendemain, des dizaines, des centaines de milliards d'euros. Par ailleurs, l'État est intervenu auprès de tous les capitalistes dont les marchés semblaient menacés par la crise, à commencer par l'industrie automobile. L'État français s'est porté au secours de Renault et de PSA, en leur donnant chacun 3 milliards d'euros. En fait, le gouvernement a fait de l'assistanat en grand pour les capitalistes en difficulté. Et je ne vous parle pas de ces assistés permanents qui vivent grâce aux commandes de l'État, comme Dassault, qui n'aurait pas vendu beaucoup de rafales si le gouvernement français n'en avait pas acheté. Et puis, il y a les niches fiscales, qui offrent à tous ceux qui brassent un peu d'argent une multitude de moyens pour échapper à l'impôt, voire pour ne pas en payer du tout. Elles représentent un cadeau de l'ordre de 75 milliards par an. Entre la niche fiscale qui permet aux grandes entreprises de déduire les pertes d'une année sur les bénéfices des années suivantes, celle qui permet de déduire les dépenses de recherche, celle qui exonère les gains obtenus sur la vente d'une filiale, j'en passe, et des meilleures. Eh bien, la bourgeoisie, elle a de quoi faire baisser ses impôts, et elle a des milliers de façons de le faire. Au point que les très grosses entreprises finissent par payer en pourcentage moins d'impôts que le buraliste ou que le cafetier du coin. Au point que Madame Bettencourt, une des premières fortunes de France, a longtemps été imposée au taux de 12%. À tout cela, à tous ces cadeaux, s'est rajouté bien sûr le bouclier fiscal. Sur les 5 années où le bouclier fiscal aura joué, eh bien il aura fait économiser pas loin de 3 milliards aux plus riches. Mais c'est encore le budget de l'État qui a payé ce cadeau. Alors voilà les raisons pour lesquelles ce budget est en déficit. Voilà pourquoi la dette de l'État a explosé. Alors si l'État a du mal à honorer aujourd'hui ses dettes, eh bien qu'il présente la note à la bourgeoisie, mais pas aux travailleurs et pas aux classes populaires. Les niches fiscales, on se dit qu'enfin, la politique de rigueur va un peu viser les privilégiés. Ceux, par exemple, qui ont les moyens d'acheter des yachts, des hôtels ou des villas aux Antilles. Sauf que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais de plus en plus, le gouvernement a une interprétation très large des niches fiscales. Un rapport commandé par le gouvernement considère, par exemple, que l'abattement de 10% sur les retraites est une niche fiscale. Comme si cela avait quelque chose à voir avec le bouclier fiscal. Comme s'il n'y avait pas de différence entre Madame Bettencourt, qui ne sait même pas exactement à combien de milliards se monte sa fortune, et les retraités, qui, une fois toutes les charges payées, n'ont plus que 300 ou 400 euros pour vivre. Les avantages fiscaux aux particuliers qui embauchent du personnel à domicile sont aussi considérés comme une niche fiscale. Mais là encore, on confond les allègements d'impôts auxquels ont droit les grands bourgeois lorsqu'ils embauchent leurs domestiques et leurs chauffeurs et les aides indispensables dont certaines familles modestes ont besoin, comme les parents qui, faute de crèches en nombre suffisant, sont obligés d'en passer par des nourrices, comme les handicapés qui ne trouvent pas d'établissement pour les accueillir et qui sont contraints de solliciter l'aide d'assistants de vie, comme beaucoup de personnes âgées d'ailleurs. Alors pour l'instant, élection oblige, le gouvernement a déclaré qu'il ne voulait pas toucher à ses aides. Mais il y a pensé, et il prépare les esprits. Le mensonge de l'égalité devant les sacrifices est d'autant plus grossier que non seulement la bourgeoisie ne paye pas sa dette, puisqu'elle l'a fait payer aux classes populaires, mais en plus, ça lui rapporte. Les 50 milliards d'intérêts de la dette qui sont payés chaque année part encore dans la poche des banquiers et des groupes industriels qui se livrent à des opérations financières. Alors cela s'appelle gagner le beurre et l'argent du beurre. Alors, ce que j'ai à dire aux travailleurs, c'est que les chantages des ministres concernant la dette ne doivent pas nous empêcher de nous défendre. La crise ne doit pas nous empêcher de défendre nos emplois, de défendre notre pouvoir d'achat, de défendre notre vie. Confrontés à la crise, bien des capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, baissent la masse salariale, licencient. Certaines entreprises se permettent même de baisser tout simplement les salaires. C'est le cas à la fonderie du Poitou Aluminium où travaillent 480 salariés à Châtellerault. La direction a annoncé à la veille des congés d'été la mise en place d'un plan de compétitivité avec une baisse de 15% des salaires ouvriers, une réduction du temps de travail à 35 heures et la remise en cause de 7 jours de RTT. L'addition de toutes ces mesures se chiffre à une perte de salaire de 23%, une perte de 350 à 500 euros par mois sur un salaire d'ouvrier. Alors que le groupe Montupé, propriétaire de la fonderie, a affiché des résultats financiers et industriels records sur le premier semestre 2011. alors que la fonderie est elle-même bénéficiaire. Alors depuis hier, les ouvriers de cette fonderie font grève pour que le patron remballe purement et simplement son projet. Eh bien, nous sommes de tout cœur avec eux. De fermer trois de ses usines, une à Madrid, l'usine Sevelnor à Ourdain dans le nord et l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Le groupe PSA a battu un record de ventes en 2010 et a fait plus d'un milliard de bénéfices. Le PDG, Philippe Varin, qui s'est d'ailleurs fait connaître récemment pour avoir signé la fameuse pétition des PDG, vous savez, nous voulons payer plus d'impôts, eh bien ce fameux PDG a trouvé quand même l'argent, il a trouvé de quoi tripler sa rémunération pour toucher 3,25 millions d'euros en 2011, soit 9 000 euros par jour. Eh bien, ce même monsieur, très généreux puisqu'il a signé la pétition, projette de mettre à la porte 6 000 travailleurs dans le pays. Eh bien, ces deux exemples, à eux seuls, cette fonderie de Montupé et PSA, témoignent que les capitalistes n'en ont jamais assez. Leur rapacité n'a pas de limite. Pour établir leur taux de profit, les capitalistes sont prêts à pousser au chômage et à la misère l'ensemble du monde du travail. C'est la lutte de classe. Alors ce sont peut-être de vieux mots, mais il n'y en a pas d'autres. Dépend de cette lutte de classe. Il dépend du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. La seule perspective politique pour les travailleurs, c'est d'inverser ce rapport de force, c'est de ne pas se laisser faire. C'est de rendre coup sur coup. Seules les luttes puissantes, déterminées de l'ensemble du monde du travail, empêcheront les travailleurs de reculer. Il n'y a pas de raccourci électoral. Car il n'y a pas, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. Aujourd'hui, le rapport de force est favorable à la bourgeoisie. Elle a pour elle la puissance de l'argent, le pouvoir sur l'industrie et l'économie, les dirigeants politiques, les lois. Mais les travailleurs ne sont pas pour autant désarmés. Ils ont pour eux la force du nombre. Ils font tourner toute l'économie et ils peuvent décider collectivement de l'arrêter en faisant grève. Eh bien, c'est comme cela qu'ils pèseront sur le patronat et le gouvernement. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, une situation devenue imprévisible, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi son pouvoir sur les entreprises. Alors nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs, que l'avidité des riches, que leur cynisme finiront par provoquer cette explosion sociale. Nous en sommes certains parce que c'est la seule voie. Que les exploités croient ou pas aujourd'hui en la possibilité des luttes n'y change rien, il faudra en passer par là, il n'y a pas le choix parce qu'il faudra sauver notre peau. Quand, où, comment les luttes se décideront, nous ne le savons pas. Et il serait vain de broder à ce propos. Mais ce que nous pouvons faire d'ores et déjà, c'est préparer ces luttes, c'est les préparer politiquement, c'est de discuter de leurs objectifs et de populariser ce programme, un programme de lutte autour de nous. La classe capitaliste montre depuis des années qu'elle est incapable de mettre fin au chômage. Alors, il faut lui imposer par la puissance du mouvement des masses l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Il faut financer cela, bien sûr, et cela coûtera beaucoup d'argent à la bourgeoisie. Mais de l'argent, elle en a. Elle en a même que trop, au point de ne pas savoir quoi en faire, à part spéculer et menacer la société de crises financières à répétition. Et puis, face aux hausses de prix et à la chute du pouvoir d'achat qu'elles entraînent, eh bien, il faut imposer que les salaires et les pensions suivent les hausses des prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires et des pensions. Alors les patrons capitalistes nous expliqueront, plus exactement feront expliquer par leurs serviteurs de la politique et des médias, que tout cela n'est pas possible, qu'il y a la compétition internationale et que tout cela les ruinerait. Eh bien qu'ils rendent donc public leurs comptes, pas leurs comptes officiels destinés à un fisc complaisant, mais les comptes où figurent tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'il y a de quoi assurer l'emploi de leurs travailleurs sans licenciement et qu'on pourrait en plus augmenter les salaires. Pour tenir le coup dans la compétition internationale, et bien qu'ils diminuent les dividendes versés aux actionnaires, et ils pourront le faire. Et par-dessus tout, pour pouvoir empêcher que les patrons puissent préparer, parfois des années à l'avance, leurs mauvais coups contre les travailleurs et contre toute la société, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire, et donner aux travailleurs, à la population, les moyens légaux de contrôler ce qui se passe dans les entreprises, de contrôler leurs marges, leurs comptes, leurs bénéfices. La classe capitaliste est une classe irresponsable, dangereuse pour toute la société. Le seul moyen de l'empêcher de nuire, c'est de soumettre sa gestion au contrôle de la population. C'est de l'intérêt des salariés, mais c'est aussi de l'intérêt de bien d'autres classes ou catégories populaires. C'est l'intérêt de tous ceux, petits commerçants, artisans, petits paysans, dont les revenus sont liés au salaire de leurs clients. Parce que la fermeture d'une usine dans une ville ou dans une région n'est pas seulement un drame pour ceux qui y travaillent, mais c'est aussi une catastrophe pour tous ceux qui vivent autour, pour les petits commerçants, pour les patrons de bistrot. Quant aux banques, qui ont une responsabilité écrasante dans la crise que nous subissons, eh bien il faut les empêcher de nuire. Au lendemain de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, en septembre 2008, les principaux dirigeants des grandes puissances avaient mis en cause les spéculateurs et les financiers. Et il y en a eu des sommets européens, des G8, des G20, où ils promettaient de combattre les excès de la finance, de combattre les bonus, les paradis fiscaux et la spéculation. D'ailleurs, Sarkozy n'avait pas été le dernier. Mais quel est l'État qui a traduit en justice et fait condamner les banquiers coupables? Quels sont les PDG de grands groupes qui ont été condamnés pour avoir fourni de l'argent à la spéculation? Aucun. Non seulement il ne leur a rien été demandé, mais ils ont été arrosés d'argent public par Obama, Sarkozy, Merkel et tous les autres. Sont-ils devenus plus responsables? Les marchés financiers, en fait, la poignée de grandes banques qu'on connaît bien, la poignée de grandes compagnies d'assurance qu'on connaît bien, BNP Paribas, la Société Générale, AXA, est-ce qu'elles ont cessé de faire courir des risques à toute la société? Eh bien non, elles continuent de spéculer, et ce n'est plus avec les subprimes, ces prêts immobiliers pourris, puisqu'il n'y a plus d'argent à faire sur les subprimes. Non, elles spéculent maintenant sur les États eux-mêmes, elles spéculent contre leur monnaie, elles spéculent contre leurs dettes. Cela n'a pas suffi aux banquiers d'avoir été renfloués et tirés d'affaire. Il faut qu'ils recommencent. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils spéculent maintenant sur l'endettement des États, l'endettement que les États ont été obligés de contracter en se portant à leur secours. Alors oui, les banquiers sont des irresponsables. On ne peut plus leur laisser les commandes des banques. Ils les transforment en salles de casino. Pour les empêcher de nuire, il faut les exproprier, sans indemnité ni rachat. Puis il faut fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Jamais assez, Nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. L'élection présidentielle nous offre la possibilité de défendre ces exigences indispensables aux travailleurs sur une échelle militante plus grande que d'habitude. À la télé, à la radio, devant la presse, je défendrai toutes ces mesures que j'ai défendues ici devant vous. Et aucun autre candidat ne les met en avant et ne les mettra en avant. Même ceux qui se targuent être radicaux sont trop respectueux du marché, de la propriété capitaliste pour le faire. Les grands partis, du Front National au Parti Socialiste, jusqu'y compris le Front de Gauche, ont, malgré leurs différences, une chose en commun. Ils se placent tous sur le terrain de l'organisation capitaliste de la société. Ils considèrent tous qu'il appartient aux riches, aux possesseurs de capitaux, de dominer l'économie et donc toute la société. Ils considèrent tous que l'efficacité de l'économie se mesure au profit qu'elle est capable de générer. Ils considèrent tous que la propriété privée des usines, des banques, des grandes entreprises, des chaînes commerciales est intangible, pour ainsi dire, une loi de la nature qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas contester. Au-delà de leurs ficelles électoralistes et de leurs mots d'ordre démagogiques, leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que les nuances d'une seule et même politique favorable à la classe capitaliste, qui ne remet pas en cause les inégalités, les injustices et l'exploitation du système capitaliste. Eh bien, il n'y a aucune raison de laisser le monopole aux candidats qui n'imaginent rien d'autre qu'une politique favorable à la bourgeoisie, ou en tout cas acceptable par la bourgeoisie. Il n'y a aucune raison de laisser le monopole de la parole à ces partis qui s'accommodent d'un ordre social injuste et d'une organisation économique stupide. Communistes. L'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités, des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises ne sont pas engendrées par la misère et par la sous-production, mais parce qu'il y a trop d'argent, parce qu'il y a trop de production, trop de richesses. C'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. C'est une économie qui condamne aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique 12 millions de femmes et d'hommes à la famine, alors qu'on produit de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Plus on a les moyens de construire vite et bien, plus il manque de logements. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner des maladies graves, de réussir des prouesses médicales, et moins les gens peuvent se soigner. Alors là-dessus, je voudrais m'adresser spécialement aux jeunes. Pas seulement parce qu'ils sont les principales victimes de la crise, mais parce que c'est de la société future dont je parle. La société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, 20 ou 30 ans. Les années à venir dépendent de notre capacité à réagir, à nous battre, à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise équivalente à celle que nous vivons, la crise de 1929 a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière, celles de 1936 en France et en Espagne, qui ont été défaites. Et la société capitaliste a montré qu'elle était alors capable de la pire réaction, de la pire barbarie avec la Seconde Guerre mondiale. Alors à tous ces jeunes, révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Il y a la possibilité de lutter pour un monde meilleur, qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement d'une minorité rapace. Au lieu des replis nationalistes, voire xénophobes, il y a l'internationalisme. C'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles qu'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux, jeunes et moins jeunes, auxquels la société capitaliste n'a que l'exploitation à offrir, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. De la société n'est bien sûr pas l'enjeu de l'élection présidentielle, et elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas surgir des urnes, pas plus que celle de l'élection présidentielle, que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence. À une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais la campagne électorale nous donne la possibilité d'armer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Je voudrais enfin vous dire que si la campagne électorale pour la présidentielle nous donne les moyens de nous faire entendre à une échelle un peu plus large que dans nos activités quotidiennes, ces moyens ne pèseront pas lourd face au matraquage des chaînes de télévision, de la grande presse qui colporte le point de vue des possédants. Il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a surtout l'activité des militants, des travailleurs conscients, de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Alors, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans la campagne électorale. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître un peu plus largement ses idées, à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, dans les entreprises, dans la rue et en tout cas dans les luttes.